semble les béatitudes, et je m'exécute, donc selon le vœu qui a été exprimé, il m'a semblé qu'il nous faudrait 2 heures, 2 séances de l'Institut biblique, et non pas une seule, pour que nous ne soyons pas obligés de trop condenser, de trop nous presser. Et le sens du titre qui a été annoncé et qui a été porté sur le petit feuillet, Béatitude 1, c'est qu'il s'agit de la première étude sur les béatitudes. Il aurait dû y avoir un S à béatitude en fait. Il ne s'agit pas de la béatitude numéro 1, non. Il s'agit de la première étude et je vous propose de considérer aujourd'hui les béatitudes de façon globale pour reprendre ensuite chacune d'elles à la file dans notre seconde étude, Dieu voulant, le mois prochain. Donc aujourd'hui, il s'agira d'un coup d'œil sur la signification d'ensemble du morceau qu'on appelle les béatitudes qui ouvre le sermon sur la montagne et de certaines considérations aussi sur la structure, sur les traits communs à la diversité des béatitudes, c'est-à-dire des proclamations qui commencent par le mot heureux, le mot béatitude. Dans son usage ordinaire, courant, il veut dire bonheur. Mais on appelle plus spécialement béatitude, ou en langage très très technique, macarisme, les énoncés, les proclamations qui affirment que tel ou tel est heureux. Alors nous allons en faire la lecture. Mais auparavant, nous voulons remettre encore ce moment que Dieu nous donne entre ses mains. Je voudrais demander à notre frère Mathieu Richel, qui nous fait le plaisir depuis un certain nombre de dimanches d'être présent lors de nos cultes. Il est étudiant à la faculté à Vaux-sur-Seine. Je voudrais lui demander de porter à notre Seigneur notre prière à tous. Je vous lis les béatitudes en français courant. Heureux ceux qui sont pleins d'eux-mêmes, car le monde leur appartient. Heureux ceux qui ne s'en font pas à propos du péché, car ils peuvent bien s'amuser. Heureux les violents, les agressifs, car ils obtiennent ce qu'ils veulent. Heureux ceux qui aiment l'injustice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ne pardonnent jamais, car ils sont sûrs de ne pas se faire avoir. Heureux ceux qui ont le cœur impur, car Dieu disparaît pour eux du tableau. Heureux ceux qui excitent les querelles, car ils divisent pour régner. Heureux ceux qui font applaudir leur injustice, car le monde leur appartient. Oui, j'ai dû me tromper, ça doit être l'évangile selon TF1, ou peut-être M6. Ou... Nous lisons maintenant les béatitudes selon notre Seigneur Jésus dans la Nouvelle Bible Seconde. Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute, et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Le petit procédé que j'ai mis en œuvre, de lecture d'abord, de ce qui paraît résumer la façon courante de penser, plus ou moins avoué, autour de nous aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui d'ailleurs, ça fait un moment que ça dure. Et puis ce que le Seigneur nous enseigne dans le grand discours programme qui inaugure son ministère terrestre, nous fait saisir ce qui est le premier sens des béatitudes, et qui souvent, je crois, n'est pas perçu comme il devrait être perçu. La révolution de Dieu. Le sens des béatitudes, c'est de marquer l'opposition radicale entre les échelles de valeur, les pratiques du monde, au sens où la Bible emploie très souvent le terme, le monde comme système de ce qui se passe autour de nous, comme la forme dominante des relations sociales, comme l'ensemble qui régit les comportements, les réactions. L'opposition entre le monde et le vrai Dieu, le Dieu qui se révèle en nous, en Jésus-Christ. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. On ne peut pas être ami à la fois du monde, dans ce sens-là, et de Dieu. C'est Jacques, le frère du Seigneur, qui dit cela dans son épître. Si on aime le monde, c'est-à-dire la façon qui prévaut de faire les choses et de penser, de dire c'est ça qui est bien, si on aime le monde, on ne peut pas aimer Dieu en même temps. Et on ne peut pas être heureux d'après les conseils, les avis du monde, et être heureux du point de vue de Dieu. Voilà ce que les paroles de Jésus nous enseignent d'abord, et immédiatement, avec cet enseignement, il y a l'annonce du renversement des choses qui prévalent dans le monde. Jésus est venu annonçant le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu est là. C'est maintenant que ça va arriver. C'est là le sujet de sa prédication dans les résumés qui nous en sont donnés. Changez de mentalité, croyez en la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est une expression synonyme. Le royaume des cieux, il est là à la porte, c'est maintenant. Et ce royaume de Dieu, il signifie la révolution de Dieu, le renversement. Les pauvres types selon le monde, ceux qui sont écrasés par ce système, Dieu les proclame heureux. Ils sont heureux à ses yeux, c'est-à-dire en vérité. Voilà la signification qu'il nous faut d'abord, je crois, bien discerner de ces béatitudes. Il ne s'agit pas de loi générale, de considération philosophique, il s'agit de l'annonce de la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est en train de s'instaurer, et ce royaume de Dieu renverse ces hiérarchies accablantes et injustes qui prévalent dans le monde, qui constituent ce que la Bible appelle le monde. Oui. Voilà la signification, je crois qu'on peut le dire avec certitude, première, de ces déclarations de Jésus, heureux, 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 ce que le monde dit malheureux. Oui. Alors cela nous alerte sur un point peut-être très, très précis. Heureux ne désigne pas d'abord, dans ces paroles, un état d'âme, une impression telle qu'elle peut être perçue à l'intérieur de soi-même par chacun des intéressés. Il s'agit, et c'est le cas en général dans les déclarations de toute l'écriture où le mot « heureux » est proclamé, il s'agit de la situation dans sa vérité. Alors il s'agit que l'état d'âme, quand on discerne la vérité de la situation, suive. Hein. On doit être tout content si on est du bon côté, si on est dans la situation que Dieu juge bonne. Mais c'est d'abord affaire de cette situation, de la vérité de cette situation. Ceux qui pleurent, oui, ils pleurent encore. Mais on peut leur annoncer qu'ils sont du bon côté, parce que le royaume de Dieu arrive, et le royaume de Dieu va opérer le renversement de leur situation. Ils sont du côté de Dieu. Et ainsi, ils sont heureux, et cela peut les rendre alors à ce moment-là joyeux, les mettre de bonne humeur, etc. Mais ce n'est pas d'abord une affaire d'humeur, c'est d'abord l'affaire de la situation selon la vérité. Heureux aux yeux de Dieu en vérité. Alors je dis que c'est parce que le royaume de Dieu arrive, car le royaume de Dieu est à eux ou est pour eux. Mais le royaume de Dieu, est-ce qu'il est arrivé ou est-ce qu'il n'est pas arrivé? Je crois que c'est une question qu'il faut immédiatement soulever. après qu'on a compris ce que je viens de dire. Dans le même sermon sur la montagne, Jésus apprend à ses disciples à prier, au chapitre suivant, que ton règne ou royaume, parce que c'est le même mot qu'on peut traduire règne ou royaume, vienne. Et nous attendons le royaume de Dieu. Alors, après 2000 ans, je crois que pour bien saisir la portée des béatitudes, comme le thème général du royaume de Dieu dans l'Écriture, il faut admettre que le royaume de Dieu vient en deux étapes, selon que le Seigneur a deux venues, car finalement le royaume, il est en lui, c'est lui le roi, et même, pourrait-on dire, la personnification du royaume, il est lui-même le royaume. Recevoir le royaume, c'est le recevoir lui. Être dans le royaume, c'est être en Christ, etc. Donc, le royaume, il vient selon deux venues, comme le Christ, deux venues. Dans l'Ancien Testament, il y a quelques passages qui peuvent permettre de le discerner, mais ce n'est pas encore très clair. On annonce la venue du roi, du Messie, du royaume. Mais dans le Nouveau Testament, il devient très clair que cette venue se dédouble. Il y a la première venue du roi, du Messie, qui va porter les péchés parce que c'est l'œuvre qui est nécessaire pour que puisse s'établir le royaume. Il faut que soit liquidé le contentieux de toutes les fautes qui font une barrière entre Dieu et l'humanité. Et puis il y aura la deuxième venue où son règne éclatera à tous les regards, sera manifesté glorieusement, et nous attendons encore cette deuxième venue. Et alors pour le royaume, je crois qu'il faut dire, ou le règne, si vous préférez traduire règne, il faut dire aussi qu'il y a double venue. La venue du royaume en toute visibilité, le royaume comme manifeste et consommé, comme on dit, c'est-à-dire à 100%, dans sa plénitude, c'est encore à venir. C'est lorsque le Seigneur Jésus paraîtra que son règne, à ce moment-là, sera un règne universel et extérieur aussi bien qu'intérieur, et que toute la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur comme le fond des mers par les eaux qui les couvrent. Donc, ça c'est encore à venir, le royaume dans sa plénitude. Mais le royaume n'est pas pour autant seulement futur. Le royaume n'est pas encore là et il est déjà là. Déjà et pas encore simultanément. Il est déjà là depuis la première venue. D'après une parole qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, non au chapitre 12, excusez-moi, au chapitre 12, on peut dire que dans le ministère terrestre de Jésus, depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu se frayait la voie avec violence. Depuis les jours de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu, dit Jésus, se fraye la voie avec violence. Je crois que c'est la meilleure traduction du verbe que choisissent certaines versions. C'est la violence libératrice du royaume. La puissance du royaume est en train d'entrer dans l'histoire humaine et se manifeste par la libération de ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs, par la guérison de nombreux malades. C'est l'entrée en puissance, se fraye la voie. Depuis les jours de Jean-Baptiste. Et puis, ce moment d'insertion progressive en quelques années achevé, c'est la croix, c'est la résurrection, c'est l'ascension, et le règne de Dieu, le royaume de Dieu, est établi. Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu seras avec moi. C'est la croix qui est le trône que Jésus a choisi pour établir son règne. Et lorsqu'il a été élevé à la droite de Dieu, il siège pour régner, le royaume a commencé. Et le royaume est présent par l'esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la justice, la joie, la paix par l'Esprit Saint. Épître aux Romains, chapitre 14, verset 17. Donc, le royaume est là. Mais il est là de manière qui n'est pas visible, sauf quand des signes sont donnés. Il y a quand même des signes qui peuvent être visibles. Par exemple, des guérisons, ce sont des signes du royaume promis. Mais dans son déploiement fondamental, il n'est pas visible. Il reste caché au regard, il est objet de foi et non pas de vue. nous marchons par la foi et non par la vue. Et d'autre part, même s'il est établi, le Saint-Esprit est présent sur la terre, en tous ceux qui l'ont reçu, et comme une puissance, c'est quand même encore un commencement seulement. Nous savons que nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu et le royaume de Dieu en nous, nous avons reçu le royaume. Nous qui avons reçu le royaume, nous ne marchons pas constamment selon le royaume. Qu'il y a en nous bien des choses qui nous attristent et qui attristent aussi le Seigneur. Donc le royaume, il est là, il est présent. C'est un facteur réel dans notre vie. Mais hélas, ce n'est pas encore du 100%. Et ça, c'est la deuxième limitation qui affecte le déjà de la présence du royaume. Le royaume est déjà là, mais pas encore visible, pas encore entier. Mais ça veut dire pour les béatitudes que les béatitudes qui sont liées à la grande révolution divine du royaume sont objets d'expérience dès maintenant. Pas de manière entière, et le vieux monde continue encore avec tous ses mensonges et toutes ses distorsions, mais les béatitudes commencent d'être vérifiées dans l'expérience des sujets du royaume que nous sommes, ayant reçu par l'Esprit le royaume en nous. Voilà le schéma qui, je crois, nous permet de bien situer la signification des béatitudes du Seigneur. Cela veut dire, me semble-t-il, vous voyez, je continue de progresser, hein, j'essaie d'avancer, que nous pouvons écarter certaines fausses interprétations des béatitudes, et en particulier des premières, qui sont celles qui bousculent de la manière la plus forte les façons de penser courantes. Heureux les pauvres, même s'il est ajouté en esprit, c'est quand même les pauvres d'abord. Et dans la version de Luc, qui est beaucoup plus brève, donc je prends celle de Matthieu, mais dans la version de Luc, il n'y a même pas la précision en esprit. C'est sans doute à un autre moment que Jésus a prononcé les béatitudes sous la forme de Luc, parce que Jésus pouvait se répéter, hein, il allait de lieu en lieu, il enseignait donc sur un plateau, certains disent là une plaine, selon l'évangile de Luc chapitre 6, il a prononcé quatre béatitudes et puis quatre paroles symétriques de malédiction ou de malheur. Mais sur la montagne, selon l'évangile de Matthieu, il en a prononcé donc un plus grand nombre, et nous considérons les béatitudes selon l'évangile de Matthieu. Eh bien, dans les premières béatitudes, donc heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif, là, c'est vraiment le contre-pied direct de ce que pense le monde. Alors, il ne faudrait pas le comprendre comme si la pauvreté était une valeur en elle-même. Ça, ce serait une première façon de comprendre qui, je crois, s'égarerait, prendrait le mauvais aiguillage dans la lecture de ces passages. Ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils sont heureux. C'est parce que Dieu a pitié des pauvres, qu'il se tourne vers eux et qu'il leur réserve le royaume. S'ils ne se prétendent pas riches par eux-mêmes, s'ils reçoivent le don de Dieu, alors ils sont heureux. Mais ce n'est pas leur pauvreté comme telle qui les rend heureux. Ce n'est pas le fait qu'ils pleurent, mais qu'ils seront consolés, qui permet de les dire heureux. Et c'est important, face à deux façons de singer les béatitudes, mais avec un tout autre sens, qui ne sont pas absentes parmi les humains, et parfois parmi les chrétiens. Il y a la manière qui exalte la mortification. Ça a été un courant de piété très fort dans des siècles de christianisme. Même le grand Blaise Pascal, pour lequel j'ai tellement d'admiration, qui est un homme que Dieu avait touché, c'est sûr. Mais savez-vous qu'il portait, il avait des maux de tête épouvantables tous les jours, mais en plus, il portait une ceinture garnie de clous, et la pointe des clous dans sa chair, pour se mortifier. Parce qu'il y avait tout un courant de piété très ancien dans le catholicisme qui considérait que la souffrance était une valeur en soi. c'est par mépris du corps, mépris du monde, non pas comme système de mensonge, mais comme création de Dieu même, que s'était infiltrée cette piété de la mortification. Les gens lisaient, mettez à mort les membres, mortifiés, ça veut dire mettre à mort, hein, mettez à mort les membres qui sont sur la terre. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, il disait, voilà, il faut que je mette à mort, en quelque sorte, tous mes réflexes, tous mes désirs, tout ce qui monte du corps. Mais en fait, si vous continuez la lecture dans l'Épître aux Colossiens, vous voyez que les membres qui sont sur la terre, ce sont le mensonge, la justice, l'impureté, la cupidité, qui est une idolâtrie, l'amour de l'argent. C'est ça les membres qu'il faut mettre à mort. Mais ce n'est pas sa chair créée par Dieu, avec sa sensibilité créée par Dieu, qu'il faut meurtrir. Mais voilà, il y a eu ce malentendu qui s'est accroché à ces béatitudes paradoxales, heureux les pauvres, ceux qui pleurent. Puis je pense qu'il y a une deuxième façon de dire un peu la même chose, qu'il faut écarter bien sûr aussi, c'est une façon désabusée, amère. Oh, finalement, la vie est tellement dure que heureux les pauvres. Une façon un peu ricanante, mais que certains peuvent prendre au sérieux. Alors, je crois que là aussi, bien sûr, ce n'est pas ça du tout, comme nous l'avons expliqué. Et puis alors, il y a une troisième façon que je veux écarter, qui est beaucoup plus subtile, parce qu'elle correspond, elle, à un enseignement biblique. Mais je ne pense pas que ce soit le sens ici. Cette troisième façon souligne que selon les Écritures, la richesse est un piège. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une tentation qui s'associe à ce bien qu'est la richesse. La pauvreté n'est pas une valeur en soi, n'est pas un bien en soi. La richesse est un don de Dieu, ou elle peut l'être en tout cas. Pensez à Abraham et toutes les richesses que le Seigneur lui avait permis d'amasser. C'est présenté comme une bénédiction de Dieu, mais c'est un piège en même temps. Nous nous servons des bénédictions de Dieu pour notre malheur, souvent. Le fait d'être riche implique comme une pression, une sollicitation très très difficile à combattre à l'autosuffisance. Bon, ça va, je suis riche, je me suis enrichi, ça va, je réussis à me protéger des aléas, j'ai plus besoin finalement de dépendre de Dieu à tout moment. Ça, c'est le riche de la parabole de Jésus. Oh, mes récoltes ont bien marché, allez, je vais bâtir des greniers, etc. Voilà, maintenant je peux prendre du bon temps. Insensé. Donc les riches sont tentés de mettre leur confiance dans leur richesse. Puis ça ne marche jamais à 100% en fait. Souvent les riches, c'est pas dans la Bible, mais c'est chez La Fontaine, mais souvent les riches sont aussi beaucoup plus soucieux, beaucoup plus angoissés, parce qu'ils ont peur justement toujours de perdre cette richesse qui n'est jamais une sécurité suffisante. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a d'autres effets très difficiles à combattre. Il y a une insensibilité qui gagne par rapport aux besoins des autres. C'est très difficile d'être riche et généreux. Il y en a, hein. C'est pas absolument une fatalité, mais c'est une tentation. Très difficile de sentir encore comment les autres qui sont dans la peine peuvent vivre leur situation quand on est soi-même riche. Et ça nous guette tous, hein, parce qu'en tout cas par rapport à tant de peuples, de tant de pays aujourd'hui, nous sommes pratiquement tous des riches comme Français, simplement. Ça nous guette. Je me rappelle une parabole, une sorte d'illustration, que j'avais lu ça autrefois, pour montrer la différence que fait l'argent. Quelqu'un menait la personne à qui le faire comprendre à la fenêtre. Voilà, une vitre. Tu ne regardes pas à travers cette vitre. Qui vois-tu? Je vois les gens qui marchent dans la rue, je vois cette personne que je connais, je vois cette personne qui trébuche et qui se fait mal, je vais pouvoir l'aider. Et puis ensuite, prends un miroir. Tu prends le miroir. Quelle est la différence du miroir et de la vitre? Vous le savez, c'est simplement une couche d'argent. Avec la couche d'argent, la vitre argentée, elle ne renvoie plus que l'image de celui qui se regarde dedans. Une illustration de l'effet si souvent de la richesse qui nous sépare des autres et nous rend insensibles à leurs besoins. Donc il y a un piège de la richesse et il y en aurait sans doute encore d'autres qu'on pourrait évoquer. Et le Nouveau Testament, l'enseignement de Jésus en particulier, insiste là-dessus, c'est sûr. Donc on pourrait interpréter les béatitudes en donnant cette signification. Heureux les pauvres parce qu'eux, ils ne sont pas tentés de se reposer dans leur richesse, de s'enfermer dans leur égoïsme, etc. Mais je ne pense pas que ce soit ici le sens. C'est bien un enseignement ailleurs, mais ici tout l'accent ne porte pas sur le fruit spirituel de l'état qui est mentionné, mais sur l'œuvre de Dieu qui va révolutionner les choses. Donc je crois que nous pouvons ainsi cadrer l'enseignement majeur des béatitudes. Alors il me semble qu'en deuxième lieu, nous pouvons alors souligner l'audace du Seigneur qui entame son grand ministère de prédication par un tel discours. Il y a l'audace de défier le monde, de montrer que ce qui est la sagesse selon ce siècle est complètement opposé à la vérité de Dieu. Cela, je pense que nous l'avons déjà compris. Mais je voudrais souligner qu'il y a aussi une très grande audace à affirmer le bonheur, à promettre le bonheur. Pourquoi? Eh bien, je suggère qu'il y a tant de charlatans qui promettent le bonheur que c'est très risqué. Lorsqu'on est un jeune prédicateur, Jésus est un jeune prédicateur quand il entame ce discours. Pour un jeune prédicateur, de promettre le bonheur, c'est risqué de passer. Pour tous les gens qui réfléchissent, pour tous les gens qui sont un peu mûris, et qui ont un peu vécu, pour un charlatan. Et il me semble intéressant de noter cette audace de Jésus qui affirme le bonheur, alors que beaucoup des plus grands sages se sont séparés de la masse, et donc de tous les charlatans, en disant que, au bout du compte, le bonheur est une illusion. Et qu'à souhaiter le bonheur, on s'enchaîne à l'illusion, donc il faut se dégager de cette espérance illusoire. Et j'ai ici, je crois, une citation que je pense éloquente, une citation de Gautama, c'est-à-dire le Bouddha. Le Bouddha, c'est son titre, hein, c'est-à-dire l'illuminé, celui qui a reçu l'illumination. Lui aussi, il a entamé son ministère, après cette illumination, par un grand sermon, qui en quelque sorte peut être traité comme l'équivalent de son sermon sur la montagne, le sermon de Bénarès. Et il proclame ce qu'il intitule la noble vérité. La naissance est douleur, la vieillesse est douleur, la maladie est douleur, la mort est douleur, l'union avec ce qu'on n'aime pas est douleur, la séparation d'avec ce qu'on aime est douleur, ne pas obtenir son désir est douleur. Et l'exhortation qui suit, c'est qu'il faut donc supprimer le désir. Il faut renoncer à vouloir quoi que ce soit pour ne pas éprouver ce qui est douleur. Il faut supprimer tout attachement. C'est là le message du bouddhisme authentique. Hein. Vous savez que beaucoup de gens autour de nous sont séduits par le bouddhisme, mais c'est un bouddhisme de pacotille, un bouddhisme arrangé, dont le sens est souvent même inversé par rapport au bouddhisme oriental lui-même, qui n'est pas du tout une religion de l'amour, qui est une religion de l'exténuation de tout amour, parce que tout amour conduit à la douleur. On souffre à la mesure de l'amour que l'on a. Donc il faut supprimer l'amour, pas d'attachement. Alors pas de haine non plus, hein, ça c'est sûr. Il s'agit justement d'aplatir, toutes les passions, parce que tout est illusion. En fait, on s'attache à des choses inconsistantes, et il faut plutôt s'en abstraire. Il faut, selon les exercices du yoga, qui est une discipline, hein, ça veut dire la discipline, s'abstraire du monde, de ce monde d'illusion, pour finalement aboutir à une sorte de dissolution dans le néant. C'est cela le but dernier. Donc pas le bonheur, le nirvana, c'est pas le bonheur, c'est le néant. C'est la dissolution dans le néant. Et du côté de la pensée occidentale, c'est un penseur dont je dois traiter aussi dans les cours de philo que je donne à la faculté ou à l'Institut de Nogent. Épicure, le sage Épicure, celui dont on a tiré le nom épicurien, mais là de nouveau avec beaucoup de malentendus. Épicure disait que finalement le souverain bien, c'est l'absence de douleur, l'absence de trouble. Que si on veut finalement ne pas trop souffrir, il faut rester bien tranquille chez soi, pour vivre heureux, vivons cachés, ne pas se mêler aux luttes des hommes, surtout calmer les passions. Le mieux qu'on puisse atteindre, c'est l'absence de troubles. Voilà qui paraît très sage, selon l'expérience des humains. Combien qui font effectivement leur malheur parce qu'ils veulent être heureux, veulent être heureux, et ils s'embarquent dans toutes sortes d'aventures, ça leur retombe sur le nez. Donc la sagesse, non pas du monde tel qu'elle régit les foules, mais la sagesse des quelques-uns qui paraissent les plus sages, dénonce le bonheur comme une illusion. Et Jésus a l'audace, lui, de commencer en disant « heureux ». Vous voyez quelle audace cela peut représenter. Et d'où vient cette audace? Cette audace, je pense pouvoir suggérer qu'elle vient de l'affirmation du bonheur de Dieu. C'est parce que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui connaît parfaitement son Père, le vrai Dieu, est bien heureux qu'il peut affirmer des hommes qui sont pris en charge par Dieu, qui sont bénéficiaires de son œuvre, qu'ils sont heureux, eux aussi. Le titre, bienheureux, heureux, c'est le même mot qu'ici, absolument le même mot qu'ici, est employé par la première épître à Timothée pour Dieu. C'est un attribut de Dieu que d'être heureux. C'est parce que le bonheur est premier et dernier en Dieu lui-même, qui est le premier et le dernier, que Jésus a l'audace de dire heureux. Il sait que le bonheur, la félicité, la béatitude triomphera parce que Dieu lui-même est un Dieu de bonheur. Voilà, me semble-t-il, un message sur lequel nous pouvons réfléchir, et je suggère qu'à l'audace de Jésus, ainsi fondée, correspond le courage de la foi. Il me semble possible d'associer étroitement le courage et la foi. Nous n'en sommes pas tellement familiers de cette association, mais je crois qu'elle est juste. Croire, ça demande du courage. Braver les opinions autour de nous, braver les apparences même, et même encore dans la vie chrétienne. Par la foi, il faut le courage qui répond à l'audace du Seigneur Jésus. Et j'aime beaucoup dans le cantique, je crois que c'est, attendez, c'est 193, j'ai dû noter de notre recueil, le cantique pour la Sainte Seine, j'ai faim, j'ai soif, Jésus, sois la manne pour moi, eau vive, jaillissez du rocher du calvaire. Il y a dans une autre strophe la prière, enivre-moi d'amour, d'espoir et de courage. Et de courage. On attendrait la foi, puisqu'on est habitué aux trois choses qui demeurent selon la parole de la première aux Corinthiens chapitre 13. Mais au lieu du mot foi, c'est le mot courage. Je pense que c'est une traduction qui est juste. La foi est courage. Oui. C'est le courage de se confier en la parole du Seigneur qui triomphe du monde. Donc cela me semble intéressant à noter. Et ayant vu donc la fonction globale des béatitudes et la manière pour nous d'y répondre, alors nous pouvons jeter maintenant un coup d'œil à la structure de l'ensemble. Car c'est un ensemble très, très raffiné que notre Seigneur a élaboré avec beaucoup de soin que ce morceau qu'on appelle donc classiquement les béatitudes que nous avons lu ensemble. On peut même se demander si dans l'original, mais là c'est difficile de l'apprécier parce que, disons dans la version originelle de Jésus qu'il a dû prononcer en hébreu ou en araméen, ce n'était pas même sous une forme poétique de poésie qu'il s'est exprimé. Certains ont cherché, mais quand on retraduit du grec, parce que nous l'avons en grec dans l'évangile, inspiré par Dieu, mais Jésus, lui, a dû le dire, avant que Matthieu traduise en grec, a dû le dire en hébreu ou en araméen, et c'était peut-être de la poésie. Alors, il y a sans doute 8 plus 1 béatitude dans cet ensemble. Bon, en fait, certains ont parfois cherché à retrouver le chiffre 7 plutôt que le chiffre 8, en considérant que la première et la dernière, ça n'en faisait qu'une seule, mais je pense quand même qu'on ne peut pas ainsi raisonner entre heureux les pauvres en esprit et heureux ceux qui sont persécutés. Il y a quand même une différence de sens, me semble-t-il. Donc c'est 8 plutôt que 7. Certains ont essayé d'aller jusqu'à 10 en disant c'est un décalogue. En comptant la 9e au verset 11 et en comptant le verset 12, réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, comme une 10e. Mais ça n'a pas la forme heureux là. Donc manifestement c'est une phrase explicative supplémentaire, mais ce n'est pas une 10e béatitude. Alors je dis 8 plus 1 parce qu'il y a la grande différence entre les 8 et la 9e de la personne mise en cause. C'est la 3e personne qui est mise en cause dans les 8. Heureux les pauvres est à eux, ils, voyez, 3e personne, alors qu'à la 9e, Jésus passe à la 2e. Heureux êtes-vous, 2e personne. Voyez. Alors là, il y a un décrochage, c'est une différence manifeste, et donc je pense qu'il ne faut pas dire il y a 9 béatitudes, mais il y en a 8 plus 1. Voyez. Une qui est à la 2e personne, qu'il faut mettre pour cette raison à part. Et il faut d'abord considérer les 8. Alors les 8, je pense que la structure peut nous apparaître assez clairement. Il y a une symétrie de l'alpha à l'oméga. La première et la 8e se répondent manifestement, puisque Jésus répète la clause clé, car le royaume des cieux est à eux. Jésus le dit pour la première, Jésus le dit pour la 8e, et dernière à la 3e personne. Donc, il boucle, c'est ce qu'on appelle comme procédé technique une inclusion. Il boucle la boucle, il crée une symétrie entre la première et la 8e. Ça, c'est un élément de structure qui est intéressant, qui nous fait nous demander s'il y aurait d'autres symétries entre la 2e, la 7e, la 3e, la 6e, la 4e et la 5e. C'est difficile à percevoir. J'ai essayé de trouver. Dans le texte grec, donc de l'évangile de Matthieu lui-même, il y a une symétrie formelle entre la 2e et la 7e, intéressant. Ça se termine de la même façon en grec, les thesantai, parce que le verbe consoler est formé du même radical que le mot appeler, le verbe appeler, utilisé dans la 7e béatitude, car ils seront appelés fils de Dieu, ils seront appelés. Et le vers se termine par appeler, or consoler est construit avec le verbe appeler et un préfixe. Ce qui veut dire que vous avez un écho là, qui s'entend entre La deuxième béatitude, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Et puis la septième, heureux les artisans de paix car fils de Dieu ils seront appelés. Oui. Mais si on retraduit en hébreu la langue que Jésus a dû employer lorsqu'il a dit cela comme discours, là il semble difficile de retrouver ce même jeu de mots. Alors ça fait hésiter. Et puis les autres correspondances, on peut toujours, mais ça paraît un peu trop artificiel. Il y a quand même une chose très intéressante à observer dans cette structure. La reprise du mot justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. C'est un mot clé de la quatrième béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. La huitième. La quatrième et la huitième, je pense que ça nous suggère que c'est volontaire et que ça nous suggère donc deux séries de quatre. Chacune des deux séries de quatre dans ce tableau se termine avec la notion de justice. Et si on a remarqué ça, vous voyez, dans cette structure très, très élaborée, il me semble qu'on peut dire qu'il y a une progression et une différence entre les deux volets, les quatre premières et les quatre dernières. Les quatre premières me semblent décrire les bénéficiaires de l'action divine qui va renverser la situation en leur faveur, surtout selon ce qu'ils sont en eux-mêmes. C'est leur façon d'être, de sentir, qui est l'objet de la description. Ils sont vus comme en eux-mêmes, les pauvres en esprit, ceux qui se savent pauvres spirituellement, qui, en leur esprit, ratifient en quelque sorte le jugement de pauvreté. Les pauvres en esprit, ceux qui pleurent. On pourrait peut-être traduire plus littéralement encore ceux qui mènent deuil. C'est un mot pour les pleurs du deuil. Ceux qui sont les doux, les débonnaires, les non-agressifs, hein, c'est la même parole que le Seigneur Jésus a employée en disant « Je suis doux et humble de cœur ». Et puis ceux qui ont faim et soif de justice, hein, de justice autour d'eux, mais justice en eux d'abord, hein, sans doute. Hein, parce que, sur le détail, nous reviendrons, Dieu voulant, la fois prochaine. Mais c'est d'abord, donc, une description de ce qu'ils sont. Hein, et puis ensuite, alors, il me semble que l'accent dans le deuxième volet de 4 porte sur la relation au monde. Heureux les compatissants, enfin au monde et aux autres. Ceux qui ne restent pas, justement, enfermés dans leurs pleurs, mais qui s'intéressent activement aux autres, les compatissants, les miséricordieux, comme on traduit aussi. Ceux qui ont le cœur pur, ça c'est peut-être un petit peu moins net que c'est un rapport en quelque sorte à l'au-delà de soi-même, mais le cœur c'est l'organe de la pensée et du vouloir dans la Bible. Donc il me semble que c'est l'intention, le cœur pur, c'est l'intention unifiée et droite. Alors les artisans de paix, ça c'est clair, les artisans de paix, les faiseurs de paix, ceux qui essayent de régler les conflits autour d'eux, de répandre une atmosphère qui ramènera la paix là où elle est troublée. Là, c'est clair que c'est un rapport avec l'environnement. Et puis alors, ceux qui sont persécutés à cause de la justice pour la justice. Là, on voit bien entre la première et la huitième, vous avez le contraste. Les pauvres en esprit sont vus en eux-mêmes, persécutés pour la justice, c'est le rapport au monde qui les persécute. Donc, il me semble que nous pouvons dire que le premier volet considère les dispositions des personnes décrites elles-mêmes, et puis le deuxième volet concerne davantage leur rapport au monde, qui finalement est un monde persécuteur pour eux. Ça, c'est un élément de structure qui me semble intéressant. On a pu noter aussi que, de ce fait même, on va vers de plus en plus d'activités. Depuis pauvreté en esprit et pleurs, on va, au fur et à mesure que l'on se déploie, vers une action de plus en plus marquée. Les faiseurs de paix sont les plus actifs dans le tableau. Et puis, il y a alors une idée très intéressante. Je ne dis pas que ce soit d'une rigueur extrême. Il ne faut pas forcer les choses, mais quand même, c'est bon. J'ai trouvé chez deux auteurs. Un auteur évangélique américain, puis un auteur catholique français. Et là, ils s'accordent. Il y a une correspondance assez frappante avec la vie de Jésus lui-même. Si vous prenez, on ne peut pas mettre tel ou tel chapitre exactement dans la chronologie de la vie de Jésus. D'ailleurs, les évangiles ne nous donnent pas toujours la chronologie simplement comme ça. Il peut y avoir un retour en arrière dans ce qui nous est raconté. Mais globalement, il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Il est devenu l'un des humains dans la pauvreté. La pauvreté, c'est le point de départ pour la vie de Jésus. Et je me disais, nous savons tous qu'il est né dans une étable, ce qui ne fait pas très riche. Il est né sur la paille. Pensez à l'expression française, sur la paille. La pauvreté, c'est par là qu'il a commencé. Il a pleuré, non pas sur ses propres péchés, comme nous avons à le faire, parce qu'il était sans péché, mais il a pleuré sur les nôtres, et sur les conséquences des péchés. Et s'il n'est jamais dit, je pense qu'il a ri, mais s'il n'est jamais dit qu'il a ri, il nous a dit qu'il a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré de sentir la force de la mort dans ce monde pourri de péché lorsque son ami Lazare a été touché. Et bien que Jésus ait su qu'il allait le ressusciter, et il l'avait laissé entendre en disant « c'est pas une maladie pour la mort », malgré ça, il a senti cette force de la mort qui fait du mal aux humains, qu'il a pleuré. Et il a pleuré sur Jérusalem, voyant d'avance tous les malheurs qui allaient s'abattre sur cette ville. Donc Jésus a pleuré. Jésus a dit « je suis doux, humble de cœur ». Donc, vraiment, c'est tout son caractère qui s'est exprimé selon la troisième béatitude. Faim et soif de la justice. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, disait-il. Il avait faim et soif de la justice du Père. Oui. Quelle compassion chez lui. Quelle pureté. Et il est notre paix. C'est lui le réconciliateur qui a souffert à la croix pour restaurer la paix. Et il l'a fait sous les assauts persécuteurs du monde. Donc, vous le voyez, il y a une correspondance qui est assez remarquable entre les béatitudes et le portrait même de Jésus tel que nous pouvons le dessiner en lisant les évangiles. Donc c'est aussi quelque chose que l'on peut observer et je pense qu'il est bienfaisant pour nous à noter. Puis il y a un autre trait qui est extrêmement important, qui est formellement repérable dans toutes ces béatitudes, ce sont les allusions à l'Ancien Testament. Il y a plusieurs passages de l'Ancien Testament qui sont pratiquement repris, des éléments en sont repris. Les doux hériteront la terre. Mais c'est un psaume, c'est un morceau du psaume 37. Ceux qui mènent deuil et qui seront consolés. Mais cela fait partie de la mission du prophète messianique d'Ésaïe 61. Dieu m'a établi pour publier une année de grâce du Seigneur et pour consoler les affligés, consoler ceux qui mènent deuil. Donc c'est une allusion à Ésaïe 61, c'est ce passage que Jésus a lu dans la synagogue et selon le texte que M. Jean-Charles tout à l'heure a commencé de lire au tout début de notre culte. C'est ce passage dont il a dit, c'est maintenant qu'il est accompli, à vos oreilles. Et il annonçait cette consolation des affligés, la libération des captifs, la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Jésus, en fait, reprend ses prophéties dans ses béatitudes. C'est maintenant que toutes ces prophéties vont s'accomplir, parce que le royaume de Dieu arrive. Il arrive par mon ministère, en ma personne. Donc cela aussi est tout à fait intéressant à relever, et nous essaierons, quand nous reprendrons les béatitudes une par une, de le repérer encore mieux. Et puis alors, dernier élément que je veux faire ressortir aujourd'hui, il y a la neuvième béatitude, qui n'est pas vraiment une neuvième, qui est une béatitude de plus, qui passe à la deuxième personne, alors que le reste était dit à la troisième personne. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, etc. Heureux êtes-vous, c'est l'application à soi-même des paroles qui ont été dites dans les versets précédents, que la neuvième béatitude met en évidence. Alors c'est aussi de grande signification pour nous. Cela est vrai pour l'ensemble de l'Écriture. L'Écriture est vraie en elle-même, elle est vraie à la troisième personne. Les hommes sont pécheurs, les hommes peuvent être sauvés, le royaume de Dieu vient. Mais il faut passer de ce registre de la vérité vraie en elle-même à la vérité vraie pour nous, à l'application à notre propre vie. Heureux êtes-vous, voyez. Et c'est souvent là que le bât blesse. Hein. Nous nous plaisons à explorer les enseignements qui nous sont donnés, mais quand il s'agit de les appliquer à notre propre vie, surtout quand il s'agit de la persécution, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est cela qui permet pour nous de faire l'expérience du bonheur qui est évoqué. Je me rappelle une autre parole où le Seigneur Jésus nous ramène de la même façon à nous-mêmes, à notre vie, à chacun, pour que ça ne reste pas un enseignement en l'air. Le jour où il a lavé les pieds des disciples, en signe de l'humilité, donc il a donné le modèle, et humilité que nous devons recevoir quant à son fruit, sans laquelle nous ne pouvons pas être sauvés, il a dit « Heureux êtes-vous si vous savez ces choses et si vous les pratiquez. » Jean 13, l'évangile de Jean chapitre 13. Ça, c'est là que ça mord. Heureux êtes-vous si vous savez ces choses et si vous les pratiquez. Alors c'est là que nous avons besoin de crier au secours à notre Dieu, que nous avons besoin de lui, de la puissance de son royaume qui est déjà à l'œuvre parmi les siens, et ce royaume qui est présent par l'Esprit, c'est là que nous avons besoin de lui pour que nous marchions vraiment selon la voie qu'il nous a ouverte. Voilà les choses que j'ai éprouvé le besoin de vous dire aujourd'hui sur les béatitudes. Donc béatitude première étude. Alors nous avons quelques minutes pour des questions encore, si vous souhaitez en poser, sinon nous pourrons terminer tout de suite. Oui, monsieur Christian Dougou. Alors la question porte sur la langue qu'utilisait le Seigneur Jésus, araméen, hébreu. Un éclaircissement est nécessaire. Oui, un éclaircissement est nécessaire, et il faut aussi avouer un degré d'incertitude. L'araméen et l'hébreu sont deux langues à peu près distantes comme l'italien et le français. Donc c'est quand même pas la même langue. Quand on sait un peu l'hébreu, on peut se débrouiller avec un dictionnaire d'araméen lentement, avec de l'aide de commentaires pour suivre un texte araméen. Je l'ai essayé, mais ce n'est quand même pas la même langue. Alors on sait que l'araméen était la langue quotidienne de la majeure part de la population en Palestine au 1er siècle. Et on voit clairement que Jésus l'a employé parce que certaines paroles sont retranscrites simplement dans le texte grec que nous avons, sous la forme araméenne, Tabitha Kumi, Tabitha c'est en araméen, jeune fille, lève-toi, ou le cri qu'il a poussé à la croix, Eloi, Eloi, Lama Sabartani. C'est pas l'hébreu. L'hébreu, c'est Asaftani, de ce psaume 22 qu'il a cité. Il a cité la traduction en araméen. Donc, il est clair que Jésus a utilisé l'araméen. Mais, ce n'était pas la seule langue en usage. Et en particulier, grâce aux découvertes des grottes de la mer morte, de Qumran, on sait que l'hébreu continuait d'être utilisé. Ce n'était pas simplement une langue morte. C'était une langue encore en usage pour les exercices religieux, pour les discussions de théologiens. Et donc, on ne peut pas écarter non plus l'idée que Jésus ait enseigné certains éléments de son enseignement en hébreu. On ne peut pas l'écarter complètement. Au temple, par exemple, ou même avec ses disciples, quel était leur degré de formation? On ne le sait pas vraiment. Et même, on ne peut pas exclure absolument que parfois il ait parlé grec. Parce que le grec, c'était la langue diplomatique et commerciale pour tout le bassin méditerranéen. On a retrouvé pour le 1er siècle plus d'inscriptions en grec qu'en araméen ou en hébreu, en Palestine même. Les gens qui parlaient grec étaient nombreux. Et Nazareth apparemment était un bourg où il y avait quand même pas mal de marchands, où c'était un gros village avec un aspect de commerce et de passage. Donc, il est assez plausible que Jésus, sans faire appel à sa connaissance naturelle, simplement comme homme, était capable de parler grec. Alors, est-ce que dans certains cas, il s'est exprimé en grec? On n'a pas absolument à l'exclure non plus. Oui. Donc, les données vont plutôt dans le sens probablement l'araméen, mais peut-être aussi l'hébreu, voire même, peut-être le grec, parfois. Oui, madame Conan.
J'ai une
Jésus bien, dit bien à cause de moi. Donc il ne s'agit pas des insultes qu'on peut recevoir parce qu'on a réellement fait des bêtises, parce qu'on a réellement eu à l'égard des autres un comportement inadmissible. C'est vrai qu'on se fait parfois ramasser, mais on l'a mérité. Bon. Alors Jésus ne vise pas cela. Jésus vise des actes, disons, de méchanceté, qui sont liés à notre statut de chrétien, à notre condition de disciple de Jésus. C'est à cause de lui. Cela dit, ça peut être très large. Ça peut être relativement indirect. Parce que nous sommes chrétiens, nous allons refuser d'entrer dans telle ou telle combine, et on va nous insulter. Ça, c'est pas en quelque sorte directement notre parole de témoignage, un effort d'évangélisation, mais c'est bien lié au fait que nous appartenons au Seigneur Jésus et nous voulons marcher comme lui. Donc, La parole à cause de moi, qui est très très forte ici, peut se prendre, je crois, largement. Et je peux même étendre encore au-delà de ce que je viens de dire. Là, c'est plus, disons, spéculatif. Je mets un petit point d'interrogation quand même en marge. Mais je vous fais part de cette pensée. Je pense que le diable a une haine des enfants de Dieu, des disciples de Jésus, et qu'à cause de lui, il cherche toutes les occasions de nous faire mal. Je pense que c'est vrai. Alors, c'est vrai aussi que le Seigneur nous protège. Il est comme une haie de feu autour de sa cité sainte, de son église. Sans ça, vous savez, nous ne pourrions pas faire grand-chose. S'il n'y avait pas la protection du Seigneur, tant la haine du diable est perverse et intense. Mais cela dit, il peut arriver, me semble-t-il, que nous subissions des assauts que le Seigneur, dans sa sagesse, permet, qui sont à cause de lui, et pas directement une affaire de témoignage non reçu. Vous voyez la distinction que je peux faire. Bon, je pense que ça doit être la dernière question. Je vois deux mains qui se lèvent, enfin, monsieur Éric Patin.
Sans avoir écrit la question en détail,
Oui. Et dont l'ordre semble intéressant, puisque la première bénédiction, c'est barrer l'accès aux autres au royaume des cieux.
Oui. Oui, très intéressant, oui. Très intéressant, en effet. En Matthieu 23, donc, vous avez le grand discours où Jésus dit « Malheur, malheur, malheur à vous, scribes et pharisiens, qui faites ceci et cela. » Et c'est vrai qu'il y a une correspondance qui barrait aux autres le chemin du royaume des cieux, qui dévorait le petit avoir qui reste aux veuves, etc. Oui. Alors là, j'ai un peu cherché, hein. Je n'avais pas remarqué toutes les correspondances qui viennent d'être évoquées, donc je remercie bien notre frère Eric de nous les faire apparaître, mais j'avais lu dans un commentaire qu'il y avait 8 malheurs, comme 8 béatitudes, au chapitre 23 du livre de Matthieu. Alors j'ai cherché, puis les autres commentaires disaient 7, j'ai cherché, j'en trouvais que 7. En fait, c'est dans les meilleurs manuscrits, il n'y en a que 7, mais il y a quelques manuscrits où il y en a 8, où il y a un verset 14 qui est rajouté, pris dans un autre évangile, en fait. Mais, alors, à ce moment-là, ça en fait 8. Mais je pense qu'on doit en rester au chiffre 7 pour Matthieu 23, 7 malheurs, et dire peut-être que c'est symbolique, là aussi. Ça, je ne l'ai pas évoqué. 7, c'est un chiffre de plénitude, chiffre de la perfection, donc pour le jugement, qui est un jugement entier, que Jésus prononce en Matthieu 23, 7. Mais 8, c'est le chiffre de la Nouvelle Alliance. C'est le chiffre de Pâques, qui est le premier jour, donc le huitième. Oui. 8, c'est le chiffre de la Nouvelle Alliance du salut, dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que Pierre souligne qu'il y avait 8 personnes dans l'arche. Oui. C'est un chiffre symbolique. Symbole de la Nouvelle Alliance. Donc le 8, ici, peut être rattaché éventuellement à ce symbolisme de 8. Et en plus, alors, moi, je ne veux pas trop développer, mais la valeur numérique, vous savez que les noms en hébreu ou en grec ou en latin peuvent avoir une valeur numérique, parce que ce sont des lettres qui servent au lieu des chiffres que nous avons. La valeur numérique de Jésus, Yesus en grec, c'est 888. L'Antichrist, 666. Jésus, 888. Bon, oui, le frère, dernière question, là.
Mais est-ce que l'enseignement public d'un seul jour est vraiment autorisé à envoyer la notion du royaume?
Oui, donc la question porte sur la notion de royaume. Votre question est intéressante, d'une part, parce qu'il y a cette dualité règne-royaume que j'ai évoquée. Les experts, les spécialistes ne sont pas absolument d'accord. Et, selon les traductions en français, qui sont faites toutes avec beaucoup de soin, certains choisissent règne, d'autres royaume. Donc là, il y a une première difficulté, effectivement. Et puis plus largement, il me semble que c'est là le sens de votre question, est-ce que la notion de royaume ou de royauté que les modernes que nous sommes ont à l'esprit correspond à la notion biblique. Et c'est vrai que ça n'est sans doute pas du 100% comme correspondance. Ni le royaume à la mode de la reine d'Angleterre, hein, parce que le Seigneur Jésus, lui, il règne vraiment, il exerce son autorité. Mais ni peut-être non plus les monarchies absolues de certaines époques de notre histoire, parce que le mode du gouvernement, en tout cas, est radicalement différent. Et le Seigneur exerce son autorité comme l'époux envers l'épouse, et pas comme Louis XIV à l'égard des pauvres laboureurs français. Donc c'est vrai que les formes de la royauté, donc les notions que nous avons à l'esprit quand nous prononçons les mots roi, royaume, règne, royauté, peuvent différer selon les temps, et que nous faisons bien de garder cela à l'esprit pour bien chercher dans la Bible quels sont les contours, les façons dont le règne de Jésus-Christ se définit. Là. Merci. Donc, je crois que ce sera pour la prochaine fois. Vous êtes d'accord? N'oubliez pas de dire la prochaine fois. Mais l'heure est arrivée. Alors, autrement, je me ferai taper sur les doigts, vous savez.